À faire, c'est. On avait quelques jours d'entraînement, on pourrait dire. Formation, merci. et puis, donc, on était séparés en équipe. Donc, moi, j'étais avec l'équipe Québec. Donc, on avait une salle en bas dans la cafétéria de louanges et on avait des gens qui venaient nous parler. De la mission, c'est quoi, pourquoi on le fait, comment aider. On a parlé aussi de la pauvreté parce qu'on est allé voir les sans-abri à Montréal. Ça, c'était une belle expérience. Et puis, dans le fond, mon groupe, on est venu à La Corde, en fait. Donc, j'ai un peu fait la mission chez moi. On a pu aller dans le quartier, ramasser des déchets. C'était quelque chose de quand même assez simple, mais il y avait une dame qui était vraiment touchée par ça parce qu'elle trouvait que c'était toujours vraiment sale. Puis il y avait même des enfants qui m'aidaient parfois, qui me donnaient des déchets pour jeter, donc ça, c'était cool. On a aussi pu faire un lavoto, un barbecue gratuit pour ceux dans le quartier. On a aussi fait des jeux dans le village. Ben pas le village, mais le quartier, là. Donc, on a fait du maquillage puis des jeux comme ça. Et puis aussi, une autre journée, on a pu travailler au camp de jour Nouvelle Vision des Jeunes, qui est de l'autre bord de la rue. Donc ça, c'était bien parce qu'on était juste comme dans la communauté, on était avec les jeunes, puis on s'amusait, puis on parlait de Dieu. En même temps, il y avait d'autres missions, comme à Montréal, au centre-ville, on est allé à voir les sans-abri. Il y a un groupe qui ont distribué de la nourriture le soir. Puis ils sont allés parler aux sans-abri, témoigner un peu. Il y avait aussi une soirée, ça c'était vraiment cool, on est allés au Mont-Royal, puis on avait de la louange au sommet où on avait une vue de la ville. Donc on avait juste apporté des speakers, puis on avait fait notre louange là. Puis là, il y avait même des personnes qui se sont joints à nous. Il y en a qui nous regardaient un peu bizarre, mais il y en avait d'autres qui étaient vraiment comme... qui se sont joints à nous, on leur a donné les paroles, puis ils aimaient vraiment ça. Puis on a fait ça aussi au parc proche de la Ronde, un samedi. Puis il y avait en fait une dame qui disait qu'elle demandait à Dieu d'avoir un encouragement cette journée-là. Puis là, elle nous a rencontrés, fait qu'elle a passé du temps avec nous. Donc ça, c'était vraiment touchant pour elle. Aussi, en fait, une histoire, on parlait de cette histoire souvent durant la mission parce que c'était vraiment Dieu qui... s'est révélé à nous un peu, comme c'était quand même assez évident. Il y avait un groupe de femmes de la ville de Québec qui priaient pour nous durant la mission et puis qui étaient en contact avec une des leaders à Essor. Et puis, un jour, durant la prière d'une des dames, elle a dit qu'elle a reçu le message de Dieu qu'il y a des Éthiopiens qui nous attendent. Donc là, la leader est venue nous donner ce message pour nous dire, elle, de ce qu'elle a compris, elle a dit qu'elle pense que ça veut dire qu'il y a des non-chrétiens qui ont soif de la parole de Dieu puis qui ont vraiment besoin d'entendre ça. Mais dans le fond, la journée où on faisait la louange sur le Mont-Royal, en fait, il y avait un gars qui passait puis il y avait un t-shirt de soccer qui disait « Éthiopie » dessus. Donc là, on était comme « OK, c'est quand même assez évident ». Donc, il y a des personnes qui sont allées lui parler, puis en fait, il a accepté le Seigneur cette soirée-là. Donc, ouais, ça, c'était vraiment cool. Puis la leader était vraiment étonnée parce qu'elle pensait que « OK, peut-être que c'est pas littéralement ce qu'il voulait dire, mais finalement, comme des fois, Dieu il est plus clair qu'on le pense ». Ouais, donc maintenant, je veux juste un peu parler de mon expérience personnelle. Parce que j'ai toujours eu comme un intérêt pour les missions, puis je suis quand même intéressée à faire ça plus tard dans ma vie. Mais pour moi, quand je suis allée en mission, j'avais un peu un genre de Goliath dans ma vie spirituelle avec Dieu. Puis le Goliath dans ma vie, c'était que j'étais comme un peu frustrée avec Dieu, comme il y avait un peu de tension, parce que... j'avais l'impression que je le ressentais pas dans ma vie. Comme, on était à Essor, puis comme, il y avait des vraiment beaux temps de louange et de partage, puis comme, on était vraiment amis, comme, c'était vraiment bizarre parce qu'on se connaissait pas, mais on était vraiment proches. Puis, à chaque jour, il y avait des histoires des personnes qui nous disaient qu'ils ont ressenti Dieu à ce point-là, qu'ils ont parlé à quelqu'un, puis comme ils sentaient qu'ils parlaient, que Dieu parlait à travers eux, puis que comme durant les temps de louange, comme il y avait la leader de louange qui était comme wow, est-ce que vous sentez la présence de Dieu, puis comme tout le monde était comme ouais, puis moi j'étais comme ok ben comme je m'amuse beaucoup puis j'apprends sur Dieu, mais comme je voulais avoir ma propre expérience parce que je trouve que juste le fait que je sois élevée dans l'église puis que comme je suis allée à une école chrétienne tout ça, comme j'ai toujours cru en Dieu puis je sais que comme j'ai une belle fondation puis comme je sais que je vais pas me détourner de Dieu, mais comme j'ai jamais senti que j'ai eu ma propre expérience spirituelle, donc je voulais être certaine, pas juste dire comme ah oh, je crois en Dieu parce que ça a du sens puis ouais, comme mes parents m'ont appris à croire en Dieu. Comme je voulais vraiment être capable de dire comme ouais, j'ai eu des moments où comme j'ai vécu dans sa présence puis comme c'était sûr que c'était Dieu. Donc il y avait une soirée où comme j'étais vraiment comme j'étais pas frustrée mais comme ça me tentait pas de partager. Donc on était en groupe puis j'étais juste comme silencieuse puis j'écoutais les gens. Puis là, ma surprise, ma leader jeunesse était comme, ok, ben Cathy, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, comme il y a comme un poids sur tes épaules. Puis là, j'étais comme, oh non, maintenant je dois partager. donc c'est ça. Donc j'ai partagé un peu. Puis là, il y avait une dame avec laquelle, comme on est amis avec leur famille. Et puis je lui ai dit comme, ok, ben je trouve que tout le monde ressent Dieu, puis moi, je le ressens pas vraiment. Comme je sais qu'il est là, mais comme j'ai pas eu ma propre expérience là-dedans. Puis là, elle m'a dit quelque chose, puis comme ça m'a surpris parce que comme c'est tellement simple, mais comme nous on complique ça tout le temps. Puis elle a dit que les chrétiens souvent on demande à Dieu de venir à nos côtés, puis on demande au Saint-Esprit comme « viens agir en nous, sois avec nous aujourd'hui », tout ça. Mais dans le fond, on ne devrait pas faire cette prière parce que comme il est déjà là avec nous, le Saint-Esprit a toujours été en nous puis il travaille en nous, c'est juste nous, on n'a pas les yeux pour le réaliser. Fait que là, elle m'a dit que comme ouais, on ne devrait pas prier comme ça, on devrait plutôt prier qu'il ouvre nos yeux parce que il est en train de travailler, c'est juste nous on est trop comme on veut trop de détails ou de ouais qu'on le réalise même pas. Donc ça c'était intéressant pour moi parce que j'étais comme durant ma mission après ça comme je l'ai pas comme ressenti juste Dieu et moi, mais j'ai quand même ce soir là. Comme on avait du temps de louange, puis c'était un peu différent parce que c'était pas nous qui chantions, on était tous assis, puis c'était juste la louange, puis ils voulaient juste qu'on écoute la musique et qu'on écrive. Mais moi, je voulais pas écrire, donc j'écoutais. Et puis là, j'ai juste comme eu l'image du fils prodigue. Puis c'est drôle parce que c'est l'histoire préférée de mon père. Mais ouais, donc j'ai eu cette image-là, puis comme j'étais comme je m'imaginais comme la fille prodigue. Puis c'était vraiment beau parce que comme j'ai jamais eu une expérience où comme je me suis vraiment détournée de Dieu, puis là, il s'est révélé à moi, puis là, je suis retournée à lui comme dans la parabole. Mais il y a toujours comme des moments où on sent comme on vaut pas tant aux yeux de Dieu, puis comme le plus qu'on fait de bon, le plus qu'il va nous aimer, ou comme on est sur terre pour qu'on puisse faire des choses pour lui. Comme, c'est un peu notre mission, mais le but de tout ça, dans le fond, c'est pas qu'on fasse des choses pour lui, c'est que lui a déjà fait des choses pour nous. Donc, j'avais juste l'image de, comme, du père comme, en train de m'embrasser, genre. Puis ça, c'était comme, ça m'a un peu donné une paix parce que je le ressentais pas dans ma vie, mais comme je savais qu'il était là. Puis c'était comme, c'est une confirmation que comme, ok, j'ai pas nécessairement besoin de le sentir, j'ai juste besoin de réaliser qu'il est là, puis de me rappeler à chaque jour que comme, ok, il est là, il est en train de travailler, puis j'ai pas besoin d'avoir des doutes ou des soucis, parce que comme, ça vaut pas la peine, je suis juste en train de gaspiller du temps que je pourrais passer avec lui. j'ai pensé plus à ça. Puis là, comme la semaine s'est déroulée, comme on a continué à rencontrer des personnes. Et puis, il y avait un autre moment que j'ai... En fait, je pense que je pourrais dire que je l'ai ressenti après ça, parce que la louange, c'était vraiment des chansons qui venaient tous nous toucher, puis ça se voyait comme on était tous vraiment comme émouvés par... Ouais, émus. Émus par la musique. Puis, comme on avait une chanson qu'on chantait à chaque jour, et puis, à un moment donné, on était tous comme en train de sauter, en train de danser, en train de chanter, puis comme... Il y avait beaucoup de personnes qui disaient que comme c'est la première fois qu'ils pouvaient se sentir libres durant la louange, puis comme ils levaient leurs mains, puis des affaires comme ça. Ça, c'était vraiment cool. Puis il y avait juste comme un moment où comme j'avais tellement de comme joie puis d'espérance que comme je voulais pas que ça se finisse. Comme j'étais juste comme je veux rester dans ce moment comme pour la vie. Puis comme on était en train de chanter puis tout ça. Puis, comme je pouvais pas arrêter de sourire parce que j'étais juste comme waouh, comme c'est tellement beau qu'on est tous ensemble, que on a tous le même but puis qu'on s'aime tellement. Puis j'ai vraiment senti que ça, c'était comme un avant-goût du ciel. Puis ça, je trouve que comme c'est une des plus belles expériences, parce que comme je pensais à rien du tout, j'étais juste comme contente dans le moment, puis c'était vraiment quelque chose de super cool. Puis je pense que la louange a cet effet sur moi, comme c'est une des choses qui vient me toucher. Puis je pense que peut-être que c'est à travers la louange que Dieu veut me parler, possiblement. Donc ça, c'était vraiment, vraiment cool. Puis ça nous excite un peu pour le ciel, là. Ouais, donc c'est ça. Puis j'avais aussi l'image de comme une coupe qui débordait. Donc ça, c'était vraiment cool, parce que des fois, on sent que comme... on ne sait pas si ce qu'on fait, c'est pour Dieu ou dans sa volonté. Mais comme en ce moment-là, comme on savait qu'il était là, puis qu'on était juste contents, puis c'était tout. Comme on était juste joyeux, puis ça, c'était vraiment cool. Ouais, donc c'est ça, c'est un peu la fin de mon histoire. Ouais, il y a d'autres choses qui se sont déroulées durant la semaine, mais ça serait trop long de tout les expliquer. Mais ouais, je pense que les deux moments où j'ai vraiment... je me suis sentie comme David le victorieux dans l'histoire, c'était dans ce moment de louange. Et puis, quand j'ai réalisé qu'on ne peut rien faire pour s'éloigner de la présence de Dieu, ça, c'était vraiment cool, parce que je pense que moi, je ne suis pas la seule quand on se sent loin de Dieu, ou comme on sent qu'on n'est pas entré en communication avec lui depuis longtemps, donc on se sent comme un peu écarté ou quelque chose comme ça. Mais dans le fond, comme il y a vraiment... il n'y a rien qu'on peut faire pour qu'il nous aime plus ou moins, puis il n'y a rien qu'on peut faire pour qu'il s'éloigne de nous. Donc, ça, c'était mon expérience.
Merci, Cathy. Je travaille dans un camp de jour, donc j'ai plus vraiment de voix, mais je vais faire mon possible. Donc aujourd'hui, je vais vous partager un peu ce que Dieu a fait dans ma vie dans les 6 ou 7 derniers mois. J'espère que ça va vous encourager puis ça va vous bénir. Donc plusieurs d'entre vous le savez, j'ai appliqué à une école biblique en Allemagne en janvier. Donc au fond, je sentais vraiment que Dieu me disait, avant que tu ailles à l'université, je viens de finir mes 2 ans de cégep, je sentais qu'il me disait, avant d'aller à l'université, je veux que tu prennes une année pour vraiment comme venir me rencontrer, travailler sur ta foi, juste approfondir ta foi, mais aussi apprendre plus sur la parole. Donc j'ai décidé, j'étais en train de regarder un peu différentes écoles. Je pensais pas grand chose, mais tu sais, je regardais un peu. Puis je me rappelle du jour où j'ai visité le site d'une école biblique en Allemagne qui s'appelle Bodensiehof. Puis j'étais en train de regarder, puis j'ai ressenti comme une certaine paix. Puis je sentais comme Dieu me donnait un intérêt pour cette école qu'il ne m'avait pas donné pour d'autres écoles. Fait que là, j'y avais immédiatement demandé, « OK, si c'est ce que tu veux, pour moi l'année prochaine, s'il te plaît, sois clair. » J'ai dit, « comme je veux vraiment que ce soit évident. » Puis j'ai soufflé cette prière, puis aussitôt, le téléphone a sonné. Puis j'ai répondu au téléphone, puis c'était, certains d'entre vous, vous vous en rappelez peut-être, mais il y avait une étudiante allemande qui habitait chez nous il y a plusieurs années, en 2007. Puis, Anne-Catherine, justement. Puis ça faisait peut-être 2-3 ans que je n'avais pas parlé. Puis elle a dit, « Jessica, est-ce que tu connais une école qui s'appelle Bodenseehof? » Puis j'étais comme, « What? » Fait que c'est ça. Fait que ça, c'était comme, ben, comme David a dit, c'était comme un clin d'œil de Dieu. Donc c'était vraiment, c'était pas mal évident que c'était de Dieu, ce désir d'aller à cette école. Mais je n'étais pas satisfaite. Donc j'ai dit, « Dieu, s'il te plaît, montre-moi encore. » Fait que là... il y a quelques semaines après, j'étais à l'école, puis j'ai été appelée voir une conseillère pédagogique. Puis la conseillère pédagogique m'a dit que j'étais expulsée de mon cours d'espagnol parce que j'avais pris des cours d'espagnol au secondaire. Puis j'étais comme, OK, mais qu'est-ce que je peux faire alors? Puis elle m'a dit, OK, mais tu peux regarder quel autre cours rentrerait dans ton horaire. Il n'y en a vraiment pas beaucoup qui restent. Puis le seul qui rentrait dans mon horaire, c'était un cours d'allemand. Fait que j'étais comme, OK. Là, j'étais comme, OK, je vais pas demander d'autre chose, je vais appliquer. Fait que là, j'ai appliqué à l'école. J'ai appliqué pour l'école. Puis là, quelques semaines après avoir envoyé mon application, j'ai reçu un courriel de l'école qui disait, vous êtes sur une liste d'attente. J'étais comme, quoi? Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que Dieu rendrait quelque chose d'aussi clair pour moi? Puis là, il me mettrait sur une liste d'attente. Puis je pense que ça a affecté ma fierté vraiment beaucoup. Je ne m'attendais pas à ça. Surtout au Québec, parce qu'on n'entend jamais parler de liste d'attente avec des écoles bibliques. Donc, c'est ça, j'étais vraiment choquée. Mais j'essayais de me rappeler aussi que Dieu avait vraiment rendu évident sa volonté pour moi. Comme il a rendu ça évident pour David. Donc, David, Dieu n'a pas dit à David, peut-être que je pense que tu devrais peut-être aller voir le géant et peut-être... Tu sais, c'était vraiment évident. Il voulait que David aille combattre le géant, puis il voulait que j'aille à Bodenseehof. C'était évident. Mais quand j'ai reçu cette réponse-là, j'étais sous le choc quand même, tu sais. Puis je me rappelle vraiment clairement que j'éprouvais une grande colère. Puis mes parents, quand je leur avais annoncé la nouvelle que j'étais sur une liste d'attente, eux, ils avaient immédiatement posé la main sur moi puis ont commencé à prier. Puis ils ont prié pour moi, ils ont prié pour mon application, ils ont prié pour l'école, ils ont prié que Dieu amène dans l'école toutes les personnes qu'ils voulaient qu'ils soient dans l'école. Puis là... C'est comme ma mère, elle a prié, mon père a prié. Puis là, comme je voyais qu'ils attendaient que moi, je prie. Puis j'étais incapable de prier. J'étais tellement fâchée. Je sais pas si c'est parce que j'étais tellement convaincue que j'allais être acceptée. On dit en anglais, it was very humbling. Je sais pas comment dire en français, mais disons que ça. Ouais. Oh, c'est mais ouais, c'était pas mal humiliant, là, on peut dire. C'est ça. Fait que j'avais vraiment la misère à pleurer. Non, j'ai pas eu de la misère à pleurer, mais j'avais de la misère à prier. Mais quand Dieu a dit à David de combattre Goliath, tu sais, David aurait facilement pu s'accabler sur lui-même, un peu comme moi j'ai fait. Il aurait pu être vraiment fâché contre Dieu, puis être comme, pourquoi tu me mets dans cette situation? Mais à la place, il a juste fait confiance à Dieu. Il a pas dit... T'es en train d'être ridicule, t'es en train d'être irraisonnable. Il a juste dit, OK, c'est ta volonté, je te fais confiance. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à comme jouer des jeux avec Dieu un peu. Puis j'ai honte de le dire, mais tu sais, je disais un peu comme, OK, Dieu, si je reçois un email cette semaine qui dit que je suis acceptée, je vais vraiment plus donner ma dîme. Ou je vais moins faire ça. Je vais plus être reconnaissante pour X, Y, Z. Mais je pense que Dieu était en train de changer mon cœur. Puis, ultimement, j'ai réalisé que Dieu ne joue pas à des jeux. Puis, des fois, il nous demande de lui faire confiance dans des situations qui nous semblent impossibles. Il nous demande parfois de faire face à des gens ou juste de lui faire confiance, de vraiment faire confiance qu'il va trouver une place dans cette école pour moi. Puis qu'il va trouver une place dans une petite école biblique en Allemagne. Il va trouver une place pour moi parce que je sais que c'est sa volonté pour moi. Donc c'est ça, comme je disais, Dieu vraiment était, il était vraiment en train de changer mon cœur. Puis je priais qu'il change mon cœur. Puis j'ai commencé à voir qu'on sert un Dieu, puis on suit un Dieu qui n'est parfois pas très rationnel, mais pas rationnel, mais tu sais, il fait des choses qui nous semblent illogiques ou qui nous semblent, qui sont pas prudentes, peut-être. Il nous demande de faire des choses qui n'ont pas de sens, parfois. Puis, tu sais, c'est là où j'ai vraiment entamé cette aventure de 7 mois où j'avais aucune idée ce que j'allais faire l'année prochaine. Fait que quand les gens me demandaient, « OK, toi, tu vas à l'université où l'année prochaine? » J'étais comme, « En fait, je sais pas. J'en ai aucune idée. » Mais quelque chose que j'ai trouvé que j'ai trouvé difficile, c'est que je pense qu'en tant qu'humain, on aime ça avoir des plans B toujours, même quand on sait que Dieu a très clairement dit « Non, je veux que tu suives ce plan A. » Fait que, tu sais, j'attendais à tous les jours d'attendre des nouvelles, mais j'étais aussi vraiment en train de focusser sur mes plans B. Fait que j'ai appliqué à McGill, j'ai appliqué à d'autres écoles bibliques, j'ai appliqué dans des programmes de mission, puis j'étais vraiment en train de focusser là-dessus. Puis j'étais comme, OK, je sais que Dieu m'appelle là, mais tu sais, je vais vraiment m'investir dans mes plans B au cas où. Mais Dieu, j'étais vraiment pas en paix avec ça, puis c'est ça que j'ai réalisé. Puis j'étais entourée, puis je suis reconnaissante parce que j'étais vraiment entourée de gens qui me disaient, qui non seulement m'encourageaient, mais priaient pour moi, puis pour mon application, mais surtout mes parents, ils m'ont vraiment dit, mais comme si tu sais que Dieu t'appelle à suivre ce plan A, pourquoi est-ce que tu te fais des plans B? Ils ont dit juste, arrête avec tes plans B, puis fais confiance à Dieu avec ce plan A, parce que tu es convaincu qu'il t'appelle avec le plan A. Donc, ce que j'ai décidé de faire, en fait, la semaine passée, c'est que j'ai écrit à McGill, puis j'ai écrit à tous les programmes de mission, puis c'était peut-être 7 écoles différentes. Puis j'ai dit, OK, on annule toutes les applications. Puis là, j'ai appelé mes parents, puis on a commencé le processus d'acheter un billet d'avion, même si je n'avais pas entendu des nouvelles de l'école depuis comme 5 mois, quelque chose comme ça. Puis quelques jours après avoir décidé ça, j'ai ouvert mes courriels, puis j'ai vu que j'avais été acceptée à l'école. Fait que, c'est ça, fait qu'au fond, je suis reconnaissante parce que j'étais vraiment entourée de gens qui m'ont pointé vers Jésus quand j'étais en train d'attendre, puis ils m'ont pas pointé vers des plans B. Ils m'ont pas dit, OK, mais juste au cas où, regarde des programmes à McGill. Ils m'ont dit, non, juste regarde Jésus, puis lui, il va s'occuper du reste. Fais-y confiance. Puis il va s'occuper du reste. Puis ils m'ont rappelé que quand on marche, dans la marche chrétienne, on marche par la foi et non pas par la vue. Donc je pense que si je marchais par la vue, oui, j'aurais vraiment, ça aurait été plus confortable de décider d'aller à McGill parce que j'ai été acceptée à McGill. Mais Dieu m'appelait vraiment à faire comme David, de faire face à ce géant qui était devant moi, puis de lui faire confiance. Puis ce que j'admire en David, c'est qu'il n'a pas hésité à faire confiance à Dieu, malgré que les chances n'étaient pas de son côté. Puis sa foi était inébranlable. Puis je pense, ça aussi, je trouve ça beau, parce que je me dis, les gens autour de lui voyaient probablement la foi de David, puis ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il fait? Comme, qu'est-ce qu'il fait? Puis j'espère que ma prière, c'est que en décidant d'annuler mes plans B, en quelque sorte, que j'ai un peu, surtout pour mes amies qui ne sont pas croyantes, j'espère que j'ai été un peu un témoignage. Je ne sais pas si j'ai été, mais c'est ma prière. Puis je pense que c'est ça, je prie juste que Dieu peut utiliser non seulement la décision que j'ai prise d'aller à l'école biblique, mais surtout cette période de 7 mois de grande incertitude, qu'il peut l'utiliser pour sa gloire. C'est ça. Je veux juste vous encourager à en croire qu'on a un Dieu qui est fidèle puis fait des miracles. J'étais pas première sur la liste d'attente dès le début, là. Il y a quand même eu, pour que ça arrive, c'est une toute petite école biblique, mais pour qu'ils puissent trouver de la place pour moi, il y a quand même dû y avoir 5 personnes qui ont décidé de pas aller à l'école biblique. Fait que c'est quand même fou, genre, c'est ça, il fallait vraiment que je tienne de toutes mes forces sur le fait que je savais que Dieu voulait que j'aille là. Puis j'ai dû vraiment lui faire confiance de toute mon âme et de toute ma force. Puis je suis reconnaissante pour vous qui avez prié pour moi, puis pour beaucoup de gens qui, comme je disais, m'ont vraiment pointé vers Jésus puis vers ses promesses. Puis, ouais, c'est ça. J'espère que ça vous a encouragé. Puis vous prierez pour moi puis pour ma famille dans les mois qui s'en viennent, parce que si j'avais été acceptée dès le début, j'aurais eu plus de temps pour me préparer. Mais là, fait que c'est un peu le rush. Je pars dans comme un mois ou deux. Fait que ouais, vous prierez pour moi. Merci.
C'est bon, merci. T'sais, on voit qu'il y a des géants de chacun de nos vies. Puis ce que moi, je trouve le fun avec ces histoires-là, c'est Dieu, il s'intéresse dans tous les détails de chacun de nos vies, même si ça semble impossible pour nous de comprendre. Mais ce que Dieu a fait dans la vie de Jess et de Cathy, il est en train de faire de chacun de nos vies. Puis c'est vraiment bénissant de voir. En fait, ça, c'est qu'on voit un petit point de ce que Dieu fait dans chacun de nos vies, puis fait toutes sortes de grandes choses. L'erreur, un peu, que ce que j'ai fait en préparant pour aujourd'hui, j'ai dit à Cathy et Jessica, « Ouais, mais on ne sait pas ce qu'on va dire. Je ne sais pas si ça va être assez long. Je ne sais pas si ça va être bon. » Fait que je dis, « Non, concentre-toi juste 2, 3 minutes, 4 minutes. C'est amplement pour partager. Il n'y a pas de problème. » Fait que je vais m'ajuster. Là. Fait que moi, j'avais une brèche de 40 minutes là, que je vais réduire là, légèrement. C'est bon. Fait que j'ai dit que je vais m'ajuster. Là. Mais c'est bon. Puis, en fait, l'objectif, comme j'ai dit au début, là, c'était vraiment on fait face à des géants dans nos vies, là, comme David. Là. Et c'est vraiment le fun de voir comment David, puis de voir son exemple, il faisait confiance à Dieu. Même quand ça sonnait comme un peu, mais comme pas juste un peu, comme complètement irrationnel. Là. Tu sais, on imagine juste l'histoire, hein, les enfants, là, contre un géant. Là, c'est comme un peu fou là, d'aller se combattre là, avec 5 pierres rondes, une petite fronde, puis contre un géant qui mesurait, ils mesuraient à peu près 3 mètres. Là. Fait que ça, c'est comme assez grand, là, ça. Tu sais, ça fait grand. Fait que ça fait vraiment 3 mètres, là, c'est ça qu'ils disent qu'ils pouvaient. En tout cas, fait que ça fait grand. Il me semble que ça fait peur. Puis il faisait 40 jours qu'ils se moquaient de l'armée. Là, fait que c'est un méchant géant, un méchant intimidation, peur. Puis David, il faisait face à ça. Pourquoi? Parce qu'il faisait confiance à Dieu, que Dieu. C'est pas ça qu'est-ce que Dieu souhaitait. Puis j'aimerais juste arrêter, en fait, sur le point ce qui me touche, moi, dans l'histoire de David. Là. Puis c'est vraiment en acte. Acte 13, 22, ça dit, là, je vais juste le lire là, pour vous. Acte 13, 22, je vais lire le verset. Puis l'ayant rejeté, il le ressuscite pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Donc, ça, c'est le témoignage de David, là, quand on parle des Actes des Apôtres là, dans le Nouveau Testament. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplirait toutes nos volontés. Donc, je vais répéter, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, « Homme selon mon cœur qui accomplirait toutes mes volontés. » Moi, j'arrête, puis je regarde la vie de David. Puis j'irai aujourd'hui, là, un homme qui a commis l'adultère, le meurtre, il a triché, il a menti, il a fait toutes sortes de gaffes. Là. Puis ça dit dans la Bible, puis aussi on dit, on croit ce qui est écrit dans la Bible, il faut croire que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Puis moi, j'ai dit, comment ça se fait? Comment est-ce que Dieu peut dire, ça c'est correct? Si son cœur était correct. Puis c'était qu'est-ce qui était différent avec son cœur, le cœur de David, versus le cœur de d'autres hommes qu'on voit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Fait que j'aimerais bien juste arrêter pour quelques minutes puis réfléchir, parce qu'en fait, c'est une réflexion que moi je fais comme je lutte avec Dieu un peu, où je questionne, je dis, aide-moi de vraiment comprendre c'est quoi parce que j'aimerais ça avoir un cœur, j'aimerais ça, d'avoir un cœur qui est homme selon mon cœur. Ça me serait pas pire, ça, d'avoir ça. Mais je me sens pas que j'ai toujours que je suis un homme selon le cœur de Dieu. Mais c'est ça que Dieu souhaite pour chacun de nous. Puis c'est quoi qui a fait en sorte que David avait ce cœur-là? Puis je dirais, ce que moi je vois, c'est comme on entend dans les témoignages de Cathy et Jess, c'est vraiment David, il faisait confiance en tout. C'était rationnel, irrationnel. Il faisait confiance à Dieu. Et aussi, ce que moi, je trouve peut-être le plus important, même s'il a péché, il reconnaissait son péché. Puis, il prenait la responsabilité des conséquences de son péché. Puis juste de faire le lien avec Saül, parce que dans l'histoire qu'on a entendue de Saül et David, Saül, lui, comme roi, mais qu'est-ce qu'il avait fait comme roi que Dieu l'a rejeté? Parce que Saül aussi, il a fait des gaffes. Mais David aussi a fait des gaffes. Mais David était un homme selon le cœur de Dieu. Puis ce que je trouve peut-être la chose pour moi qui me parle le plus, c'est Saül, quand, tu sais, comme l'exemple en 1 Samuel 13 et 15, il y a deux histoires qui parlent de Saül, mais je ne lirai pas nécessairement tous les versets au complet, mais ça, l'histoire, c'est comme Saül devait, tu sais, Dieu avait dit d'aller de prendre l'armée, puis d'aller se combattre le comté philistin, puis Samuel, le prophète dans ce temps-là, qui devait offrir l'holocauste, offrir le sacrifice à Dieu avant la guerre, il dit, j'arrive dans 7 jours. Il a dit, Samuel a dit, j'arrive dans 7 jours, fait allez vous préparer, j'arrive. Mais Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à préparer la guerre, préparer toute l'armée, mais il voyait que les Philistins, ils s'agitaient, puis ça s'en venait, là, que oh boy, la guerre va s'éclater bientôt. Moi, mes hommes, ils commencent à avoir peur, là, ça va pas bien. Là. Moi, je suis le leader, il faut que je fasse quelque chose. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais, regarde, il faut, avant d'aller à l'affront des Philistins, il faut offrir les sacrifices. Fait que Samuel n'est pas là, c'est ça qu'il faut faire, donc je vais offrir le sacrifice. Pendant qu'il est en train de Saül, qui n'était pas sa job de faire ça, Samuel avait dit qu'il viendrait. Saül est en train d'offrir le sacrifice. C'est une bonne chose quand même d'offrir le sacrifice, de dire, de se remettre en position. Dieu, regarde, je mets le sacrifice avant la guerre, donc tout est en règle. Puis Samuel arrive pendant qu'il faisait, qu'il offrait la scie. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Saül? Il dit, ouais, mais regarde, tu sais, il t'arrivait pas, je savais pas quoi faire, regarde, je faisais une bonne chose, j'offrais le sacrifice à Dieu. Tu sais, on se préparait pour la guerre. Puis Samuel a dit, c'est pas ça que Dieu t'a demandé. Il t'a demandé d'attendre. Fait que c'est fais confiance. Fait que c'est ça, c'est la différence, je crois, fondamentale. C'est minuscule, c'est subtil, c'est comme, il faisait une bonne chose. Puis j'irais même l'exemple en Samuel 15, quand Dieu a demandé à Saül, encore une fois, d'attaquer j'oublie les peuples, les Amalekites, les Amécites, je ne sais pas comment, en tout cas, il y a une autre gang de méchants. Dieu avait demandé, ça c'est mon côté théologique là, que je n'ai pas étudié assez, là, fait que vous me pardonnez, là, mais l'histoire est dans la Bible, là, fait que c'est bon. Là. Je dis ça juste parce que le français, ouais, c'est ça, ils prennent des notes, là, fait que c'est quand même pas, c'est bon. Mais les méchants, fait que Saül a été demandé d'aller raser la ville, de tout raser, là. Bétail, tout, de tout raser. Fait que Saül, puis c'était clair, là, l'objectif était clair. Fait que Saül a été avec l'armée, puis qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu avec les agneaux, les moutons, les vaches, etc. Puis Samuel arrive, il dit, qu'est-ce que tu as fait encore, Saül, là? Est-ce que ce n'était pas clair ce que Dieu t'a demandé? Il dit, oh, non, mais garde. Il dit, on a tout rasé, là. La ville est rasée, tout le monde est mort, mais on a amené les agneaux et ça pour offrir des sacrifices à Dieu. Fait que c'est une bonne chose ce qu'on a fait. C'est non, c'est pas ça que Dieu a demandé. C'est clair. Là. Fait que c'est ça qu'on voit que la différence de ce que Dieu voulait, il voulait simplement la confiance en lui, de son plan. Pas un bon plan qui semble honorer Dieu par des rites et des rituels, c'est comme les sacrifices. C'est pas ça qu'il a demandé, il a demandé l'obéissance. Puis on fait ça contre l'histoire de David, quand Nathan, le prophète, dans ce temps-là, dans l'histoire de David, quand David, vous connaissez probablement toute l'histoire de Bathsheba, puis etc., qui a commis l'adultère, puis le meurtre et tout le kit, c'était pas très drôle. Puis Nathan, le prophète, arrive devant David, puis il raconte l'histoire, puis j'aime bien, je ne lirai pas l'histoire, mais l'histoire comme Nathan... raconte une histoire à David. Tu sais, il arrive devant le roi, puis il dit, « Monsieur le roi, j'ai une histoire à vous raconter. Il y avait un homme qui avait un bœuf, puis un autre, un homme riche qui avait plein de bœuf, mais tu sais, celui qui était le riche, il a pris le bœuf du pauvre, puis il a offert ça, il a comme volé, puis il a offert à des visiteurs. » David dit, « Mais c'est complètement insensé, cet homme-là, il mérite la mort. » Puis Nathan dit, « Mais c'est toi, cet homme-là. » Puis j'aime bien la réponse de David, c'est, je vais juste vous le lire. Désolé, là, je vais juste trouver ma place. Donc, quand Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour être roi d'Israël, je t'ai délivré de la main de Saül. Pourquoi as-tu donc méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé l'épée de Uri, tu as pris sa femme, maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Ainsi parle l'Éternel, etc. Puis David dit à Nathan, puis c'est ça que je trouve, c'est le point le plus important. David dit à Nathan, il n'a pas dit, mais j'essaie de faire quelque chose de bien, puis j'ai essayé de régler ça. Il a dit, 1, 2, 3, 4, 5 mots. J'ai péché contre l'Éternel, point. Puis arrêté là. Il n'a pas trouvé d'excuse, il n'a pas justifié, il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Fait que tout de suite, il s'est mis en position, oh, ça, moi j'ai fait une gaffe. Puis c'est ça que je pense, c'est ça ce que Dieu veut de nous, là, notre cœur, c'est de reconnaître qu'il est Dieu et de reconnaître que c'est pas, il n'y a pas d'excuse de l'obéissance qu'il demande, c'est pas comme, ouais, mais j'essaie de faire une bonne chose avec, mais même comme Jess, elle parlait, tu sais, jouer un peu avec nos dîmes, je vais donner plus ma dîme, c'est comme, non, Dieu, il demande juste l'obéissance. Puis quand on n'est pas obéissant, on dit, j'ai péché. Point. Pas j'ai péché, mais tu sais, j'avais pas le choix, là. Tu sais, j'attendais, c'est comme, ça, je dis, tu sais, il y avait quelque chose, il y avait un plan B qui arrivait, Dieu, là, tu voyais pas, mais c'est clair qu'il voyait, là, c'est clair. Puis qu'est-ce qu'il veut? Il veut, comme Jess a dit, bien, attends, j'arrive, je suis là. Puis dans la tempête, oui, il y a une tempête, je suis là. Fait que, attends, fais-moi confiance, je suis là. Et donc, notre réponse comme croyant, de dire, j'ai péché contre l'Éternel, je te fais confiance, je ne veux pas faire mon plan B, je veux faire ton plan A, qui est mon plan A, puis de rester là-dedans. Puis c'est ça que je trouve, de croire que Dieu est toujours là, il veut notre bien. Mais l'autre point, je dirais, de David, qui est surprenant, puis je pense que c'est ça que Dieu aime, David n'a pas vécu dans la culpabilité par la suite. J'ai péché contre l'Éternel. Il a admis ses fautes, il a demandé pardon, il a subi des conséquences, il était reconnaissant que oui, il méritait ça, là, c'était pas bon, mais il n'a pas vécu dans la culpabilité, il a vécu dans le pardon. Puis ça, je trouve que c'est l'élément qui des fois pour nous, je dirais pour moi, est-ce que je vis des fois dans la culpabilité ou est-ce que je vis dans l'amour complet et le pardon complet? Puis c'est ça que David faisait, parce que pour faire ce qu'il a fait, il faisait 100% confiance à Dieu, 100% dans la confiance. Il dit, oui, tu es toujours roi, tu es toujours mon fils, tu es toujours mon bien-aimé. Tu es un homme qui a le cœur, qui ressemble à le cœur que je désire. Fait que je pense que c'est ça, c'est un peu l'encouragement que je veux donner à l'Assemblée. Puis je dirais, parce que c'est le même encouragement que Dieu me donne aussi, c'est comme de faire confiance à Dieu dans toutes choses et aussi de voir que, de ne pas vivre dans la culpabilité, mais de vivre vraiment dans le pardon, mais un pardon qui est vrai, véritable, qu'on reconnaît notre position avec Dieu, de reconnaître qu'il est Dieu, mais il ne veut pas qu'on vive cette relation qui est rompue, il veut qu'on vive dans son plan A, pas dans le plan B, puis si on vit dans le plan B, d'essayer de trouver des excuses pour rester dans le plan B. Non, il veut le plan A, puis on a chacun un plan A avec lui, là. Donc, si on regarde les différences avec David et Saül, là, c'est assez clair. David était zélé pour Dieu, il avait la confiance. Il cherchait le pardon, acceptait les conséquences, puis vivait dans l'amour et le pardon, versus Saül qui croyait ou il acceptait plutôt les louanges du peuple que de vraiment qui ne soupirait pas après le cœur de Dieu. Et aussi, ce que je trouve le point le plus important, qu'il voyait les actes de sacrifice ou les actes religieux versus l'obéissance. Donc, c'est la phrase que j'aime bien, c'est l'obéissance peut inclure sacrifice, mais sacrifice n'est pas toujours obéissance. Ok, je vais répéter parce que même moi ça m'a pris un peu de temps là, comme de vraiment gober ça là. C'est obéissance peut inclure sacrifice, mais sacrifice n'est pas toujours obéissance. Fait qu'on voit des fois, c'est ça que, puis je pense que c'est ça que Saül, des fois, lui, il dit, mais j'ai fait le sacrifice, donc j'ai été obéissant. Non, c'est il a flippé ça de bord. Est-ce que vous êtes d'accord? En tout cas, moi, je trouve que ça a du sens dans ma tête, là. Fait qu'il faut peut-être là, mijoter un peu, là, si. Fait que, le, la conclusion ou l'exhortation que je partageais avec vous comme assemblée, c'est de vraiment qu'on soit des David, là. Qu'on vit dans le pardon, qu'on vit dans une bonne relation en Dieu, de mettre vraiment notre confiance en lui, en toute chose, même quand ça semble irrationnel. Parce que c'est vrai que des fois, ça semble irrationnel. Petite chose, grande chose, des fois, c'est irrationnel. Mais de faire toute confiance en tout temps en Dieu. Et aussi d'avoir vraiment une attitude d'humilité. Je pense qu'elle avait dit ça aussi. Je pense que c'est ça que Dieu veut, là. C'est une attitude d'humilité. Pas d'arrogance de dire, « Ouais, Dieu, mais j'ai péché, mais ce n'était pas nécessairement de ma faute, là. » Tu sais, c'est, « Non, j'ai péché, point. » On met un point, là. Je veux dire, en tout cas, je ne sais pas pour vous, là, mais c'est quelque chose que je n'ai pas terminé cet exercice-là, d'être capable de faire ça. Là. Fait que c'est un voyage. Si je peux juste résumer là, ce qu'on, Jess, Cathy et moi, on voulait partager. Jess a partagé comme de faire confiance en Dieu, même si c'est irrationnel, puis d'avoir la foi en lui, de son plan en tout temps. Cathy, que Dieu soit avec nous, compris que Dieu ouvre nos yeux de voir qu'est-ce qu'il fait autour de nous, puis comment vraiment de le voir vraiment là où il est. Et aussi, que ce qu'on partageait aussi, Dieu habite les louanges. On dit ça, là, Dieu habite les louanges. Puis je pense que c'est ça que Cathy, elle a vécu une expérience où elle a vraiment senti que Dieu vraiment habite les louanges. Il est présent dans nos louanges de l'Église. Fait qu'on partage ça en Église, Dieu habite nos louanges. Puis de croire que vraiment, même si on ne ressent pas, mais il est là en tout temps. Et il veut avoir cette relation avec nous. Et pour moi, la conclusion, c'est un peu c'est notre côté, notre relation de confiance avec Dieu et aussi d'avoir une attitude d'humilité envers lui et de vivre dans le pardon et l'amour, pas dans la culpabilité de nos actes. C'est ça que c'est clair que Dieu... En tout cas, puis je dirais comme processus de vraiment comprendre comment Dieu peut dire ça que... David, homme selon mon cœur. C'est profond. Puis il me semble que ça mérite plus de réflexion et discussion et prière aussi, de vraiment comprendre ça, parce que c'est riche, l'histoire de David, là, de ce qu'on peut voir. Là. C'est vraiment un grand homme de la Bible et de l'Ancien Testament. Oui, donc, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous partager. J'ai comme l'habitude, je fais une étude, est-ce que vous avez des questions? Mais peut-être que si vous avez des questions, on peut les élever ensemble dans la prière.